fait très plaisir de donner la parole à Elodie Djordjevic. Nous allons vérifier si, à la suite de son directeur de thèse, elle a franchi le chemin agressif allant de régressif historiquement, allant de l'égal à Kant. Je vous donne avec beaucoup de plaisir la parole.
Merci, Monsieur le Président. Oui, mais c'est vrai que je dois dire que je suis particulièrement, ça me fait particulièrement plaisir et particulièrement honoré, voilà, de pouvoir essayer de donner la réponse ici, parce qu'effectivement, Jean-François Kervégan est mon directeur de thèse. Directeur de thèse un jour, directeur de thèse toujours. donc voilà, c'est en même temps un honneur, en même temps, c'est effectivement un petit peu. Donc il reste très peu de temps, je pense que tout le monde est très fatigué, donc je vais tâcher d'aller. Sans doute que pas mal de choses, beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc je vais essayer de ramasser ce que je voulais dire en deux points très succincts. Enfin, je voudrais d'abord rappeler que, enfin, ça a été dit, hein, mais que ça me paraît un ouvrage important, non seulement sur Kant, et il y a, enfin, effectivement un travail d'exégèse qui est extrêmement précis, qui est extrêmement original. C'est-à-dire que un certain nombre des thèses vont quand même, qui sont ici défendues d'interprétation, ici défendues vont à rebours d'une certaine orthodoxie du commentaire, et il y a plusieurs points qui à cet égard m'ont paru extrêmement éclairants. Enfin, je dirais juste ce qui semble être les thèses majeures de l'ouvrage, dont le cœur effectivement me semble aussi être dans ce fameux chapitre 3, qui donne toute sa part à ce qu'on peut isoler et ce qu'on peut dégager comme étant la normativité juridique kantienne. Et dans l'ensemble, l'ouvrage, et c'est ainsi que, assez modestement d'ailleurs, trouver l'énonce l'introduction, prétend d'abord mettre au jour une théorie kantienne de la normativité, montrer que cette théorie kantienne, en dépit d'une évolution certaine, alors de la Grundlegung au niveau de la maturité, connaît une certaine évolution, et qui est l'évolution principale, c'est la réévaluation progressive de la place du droit, donc au sein de cette philosophie pratique. En dépit de tout cela, donc, c'est une philosophie, une théorie de la normativité que l'on peut isoler et qui reste relativement stable. Alors ça, l'établissement de cette thèse en face a été dit par une cartographie et une analyse très méticuleuse des déplacements, des polarités, enfin, des manières de déterminer la liberté tout au long de l'œuvre. Et je vais très vite là-dessus, c'est que je me suis simplement posé la question de savoir ce que vous faisiez de la distinction qui est introduite ultérieurement à la Grundlegung, qui est la distinction entre autonomie et autocratie, qui intervient bien plus tardivement, et la manière dont vous la mettiez dans le tableau.
J'y fais allusion quelque part.
Assez rapidement, mais pas avec la systématicité.
Allusion.
C'est que c'est présent. Une autre des thèses qui me paraît majeure, c'est la démonstration, donc, pour ma part, j'ai trouvé vraiment très convaincante, dans laquelle il y a des impératifs catégoriques juridiques. Et encore une fois, donc, au service de la thèse, pour établir la thèse générale, dans le même temps que cela se fait, donc il y a un certain nombre de ce qui me semble être des préjugés sur la philosophie pratique de Kant qui sont ici démolis. D'abord, l'image, malgré tout tenace, d'un Kant qui serait anti-conséquentialiste ferme, ce qui me paraît là, pour le coup, aller vraiment contre la lettre. Enfin, c'est mon très très bien ouvrage du texte kantien, et notamment contre la lettre même, par exemple, d'un passage aussi capital que la typique de la faculté de juger, qui, à mon avis, se comprend pas on voit en Kant un strict anticonséquentialiste.
La typique de la faculté.
La typique de la raison pratique. Dans le balayage d'un certain nombre de préjugés, il y a aussi la remise à sa place, me semble-t-il, de la fonction et de la fonction conceptuelle, mais aussi normative du droit cosmopolitique, alors qui connaît aujourd'hui une espèce de faveur incroyable, de même d'ailleurs que l'avait fait Catherine Collet-Hellem dans La démocratie sans démos, vous rappelez à quel point ce droit doit être correctement entendu et n'a pas les prétentions que l'on veut parfois lui faire tenir. Enfin, sur la philosophie de l'histoire, c'est... là, j'ai l'impression qu'entre le professeur Breno et vous, il y avait plus un problème de mots plutôt qu'un problème concernant la chose, que vous rappelez simplement, enfin, le titre, c'est que chez Kant, on ne peut pas parler de philosophie de l'histoire parce que précisément le pas du réfléchissant au déterminant n'est pas fait et ça change absolument tout. C'est pas une philosophie de l'histoire au sens notamment évidemment hegelien du terme, précisément pour cette raison. Alors, cela dit, indépendamment de ce que je viens de dire là et qui relève plutôt du sous-titre de l'ouvrage, il me semble que l'enjeu majeur du livre, c'est précisément cette question de la raison des normes, la raison au singulier. Et cet enjeu, il est rappelé dans les ultimes lignes, de l'ouvrage. Et il consiste, je crois, et c'est un projet qui déborde ce texte sur Comte, eh bien, essayer de penser les conditions de la normativité, les conditions de possibilité de normes dont l'évaluation ne soit pas simplement laissée au simple arbitraire ou au simple relativisme, qu'il soit celui du sujet sous la forme d'un subjectivisme d'un côté ou sous la forme d'un relativisme simplement qui soit simplement culturel ou historique de l'autre. Et effectivement, il s'agit d'essayer de penser avec Kant, c'est du moins ainsi que j'ai compris l'intention de fond de l'ouvrage, quelque chose comme une raison des normes qui ne soit pas réductible aux raisons que l'on peut donner d'agir, autrement dit, l'allemand est commode là-dessus, sauver la raison comme Vernunft l'idée que pour agir, il suffirait d'avoir de bonnes raisons, Gründe, c'est-à-dire des motivations... des fondements simplement nécessaires à agir, mais qui, ultimement, ne sont jamais en réalité suffisantes. Alors, c'est plutôt en partant de là, en fait, que j'avais deux questions principales. Alors, la première question que j'avais à cet égard, c'est-à-dire, bon, est-ce qu'on peut se servir de Kant, finalement, pour parvenir à penser... de manière pleinement satisfaisante, enfin, de relever cette gageure finalement d'une pensée de la normativité qui ne soit pas simplement un moralisme, tout en pensant l'universalité aussi des normes, je crois que c'est l'un des enjeux, des normes qui puissent être véritablement satisfaisantes d'un point de vue rationnel. La première question qui m'est venue, c'est la première aussi qu'a posée Catherine Colliot-Hélen. Là, je trouve qu'il y a une vraie difficulté chez Kant. Alors, je ne sais pas si c'est le côté hegelien de la chose qui fait qu'on est arrivé sur les mêmes choses. Il me semble que ce sont des objections hegeliennes. Ou bien le fait que j'ai lu aussi les travaux de Catherine Colliot-Hélen et qui font que je tombe un peu sur les mêmes choses. Je ne redirai pas ce que Catherine Colliot-Hélen a dit, puisque vous y avez répondu. Il me semble qu'il y a un problème que détecte Hegel. À partir de l'idée, alors je suis pleinement d'accord avec ce que vous avez écrit, cette idée qui me paraît vraiment très éclairante, selon laquelle finalement la raison pratique kantienne n'édifie pas des normes, elle permet simplement de discriminer, d'évaluer des normes qui lui sont données d'ailleurs, par ailleurs. Autrement dit, l'impératif catégorique, il faut l'entendre de manière procédurale, comme une procédure qui va permettre effectivement de départager entre les véritables normes et celles qui n'en ont en quelque sorte que l'apparence. Alors, il y a deux problèmes, à mon avis, distincts et qui se rejoignent avec cette conception qui est très forte. On voit bien qu'elle ennuie, elle évite beaucoup d'ennuis. Le premier, c'est celui qu'a donné Catherine Colliot-Hélen, c'est le problème de la stérilité, en ce cas-là, constitutive de la loi morale. C'est-à-dire que si on considère que l'impératif catégorique, effectivement, n'est jamais qu'une procédure, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup de mal à comprendre chez Kant. On voit mal, si on tient ça, qui me semble un des acquis effectivement de la seconde critique, comment on peut passer en toute rigueur du plan de la critique à celui de la métaphysique positive. Autrement dit, on voit mal comment on peut passer de l'idée d'une raison normative telle que vous l'avez déterminée, telle que vous l'interprétez chez Kant et qui me semble très éclairante, à des déterminations pratiques qui soient vraiment déterminées, autrement dit, à des obligations juridiques et éthiques. Il y a un autre plan de l'objection, là aussi, elle me semble de teneur hegelienne, en tout cas je la vois chez Hegel, peut-être est-ce une erreur, mais elle est sur le même objet, mais elle me paraît encore plus grave, c'est que, l'impératif catégorique n'est justement, ce pouvoir pratique de la raison n'est au fond qu'un pouvoir de mettre au jour une procédure, la difficulté, c'est qu'il me semble que cette procédure elle-même, je reconnais, disons qu'on admet ce caractère procédural, le problème c'est que cette procédure elle-même, Si on s'en tient à la lettre kantienne, on ne voit même pas comment elle va fonctionner comme procédure. Il me semble qu'elle ne permet de rien. Là, c'est vraiment l'objection hegélienne, mais je suis preneuse des réponses que vous y feriez. Cette idée que, étant procédurale, il y a une aptitude finalement de la loi morale kantienne à constituer quelques critères de moralité que ce soit, y compris donc quand on la conçoit comme une simple procédure. Je rappelle très très rapidement, oui j'ai toujours tout plein de pages, mais c'est...
C'est ça que vous êtes en train de regarder.
Oui, il me reste très très peu de temps. Vous connaissez c'est indépendant de la critique qui est commencée dans le paragraphe 135 des Grundlinien, des principes de la philosophie du droit. L'argument hegélien qui me paraît quand même assez convaincant consiste à dire, désolée, je reste kantienne hegélienne justement là-dessus. Consiste à dire que certes, voilà, toute maxime a un contenu, et là-dessus on peut pas faire grief à Kant de ne l'avoir pas vu. Le problème, c'est que si on fait fonctionner donc la procédure comme il me semble qu'on doit la faire fonctionner en termes kantiens, on doit donc considérer que la seule forme de la maxime, et c'est à partir de cette seule forme qu'on va chercher à savoir si elle est oui ou non conforme à la forme de la loi, c'est-à-dire si elle est pleinement objective selon les critères kantiens, si elle est universelle et nécessaire. Et précisément, si je considère cette seule forme, eh bien, je trouverai nécessairement à chaque fois que toutes les maximes sont bonnes. Ou alors, c'est l'argument hegélien, ou bien je considère que précisément, en tant que toute maxime a un contenu, et que ce contenu, en outre, il est toujours subjectivement déterminé, il faut, dans ce cas, rejeter toutes les maximes, précisément, puisqu'il n'y a pas de maximes sans matière. Dans les deux cas, ça permet jamais, soit on rejette toutes les maximes en bloc, soit on les approuve toutes, mais dans les deux cas, ça ne peut jamais véritablement fonctionner comme procédure, pour autant, en tout cas, qu'on s'en tient au concept strict d'obligation tel que le détermine Kant dans la seconde critique. Je vais rapidement là-dessus parce que je crois que c'est... vous connaissez ça, entendu mieux que moi. Le second gros bloc de questions, je vais aller très très vite. Il tient à votre thèse, qui tend à effectivement hegélianiser en quelque sorte Kant, l'idée de retrouver des traces donc de la Sittlichkeit dans la position kantienne. Et là j'avoue que je suis un petit peu gênée notamment à l'égard du projet qui me semble être le vôtre dans cet ouvrage, c'est-à-dire qu'il me semble que si on tient la position que me semble-t-il vous défendez dans plusieurs passages du livre et qui tranche en faveur du fait que la matière donc certes n'est pas donnée par la raison pratique elle-même mais qu'on la trouve, elle est là, elle est donnée et que au final elle serait accessible par quelque chose comme une raison commune ou la saine raison, etc. Je vois mal comment on ne tombe pas ici dans une forme, alors certes moindre, mais tout de même une forme de relativisme. Et encore, on ne retombe pas sur des raisons. Parce que cette raison publique, en empruntant à l'expression rawlsienne, cette raison publique, ou encore cette saine raison commune, etc., en tant que c'est quelque chose de donné, mais qui apparaît effectivement comme le général, l'espèce de bon sens, comme ça, diffus, qui serait donc notre critère, on voit mal en quoi, finalement, à partir de là, on aurait autre chose que du général, et donc quelque chose de toujours relatif, alors que ce qu'on cherche, me semble-t-il, c'est précisément l'universel. Et là, il me semble qu'il y a une difficulté, qu'il y a aussi chez Habermas, à mon sens, où je vois pas comment on fait le saut, là, du général à l'universel. Et au fond, il me semble qu'il y a vraiment une différence majeure avec Hegel. Je crois que... c'est que cette matière, vous lui attribuez d'emblée, chez Kant, cette matière qui serait ainsi donnée, un caractère normatif. Je crois précisément qu'elle n'en a pas.
C'est ce qui est très ennuyeux. Alors que chez Hegel, le monde objectif, précisément parce qu'il y a de la raison qui s'y effectue, que cette raison est normativement structurée, oui, il y a de la normativité. Elle est là, elle est dans le donné qui n'en est pas véritablement. Chez Hegel, chez Kant, c'est pas le cas. Du coup, je vois pas comment on sauve là Kant, paradoxalement, hein, d'un certain relativisme.
Bon, merci Elodie de ces questions qui vont au fond des choses et auxquelles je ne suis pas en mesure de répondre. Ce sont des questions fondamentales. Hein. La raison, les raisons, oui, bien sûr, c'est intentionnellement que j'avais choisi cette formule, la raison des normes, et je l'ai fait en pensant à cette formule de Hegel dans les principes, je ne me souviens plus quel paragraphe. Où il dit on pourra toujours trouver des bonnes raisons.
Même aux choses les plus mauvaises. Même aux
choses les plus mauvaises. On trouvera toujours un stock de bonnes raisons, Gutegründe, pour justifier les actes les plus inqualifiables, etc. etc. Donc, grande méfiance par rapport aux raisons. Etc. Alors,
peut-on se servir raison, c'est pas grave.
Comment ?
Tant qu'on a raison, c'est pas grave. Ajoute quoi, j'aime.
Peut-on se servir de Kant pour penser l'universalité des normes ? Y a-t-il pas un risque de réintroduction d'un relativisme ? Première chose, à propos de la stérilité de la loi morale. Ok. Si l'impératif n'est qu'une procédure d'universalisation, est-ce qu'on ne peut pas néanmoins se raccourcir ? C'est une manière de répondre un peu aussi à d'autres questions qui m'ont été adressées par Catherine en particulier. On peut imaginer que même si l'impératif ou la loi d'universalisation, le principe U, comme dit Habermas, c'est commode de l'appeler comme ça, même si c'est une simple procédure d'un test, on peut imaginer à partir de là qu'on puisse établir de façon a priori une sorte de grammaire fondamentale des rapports juridiques. Et ça serait ça le contenu de la doctrine du droit, une grammaire fondamentale des rapports juridiques dans laquelle des concepts comme celui de personne, de rapport de droit, de res ferentis, rapport de droit, de contrat, etc., trouvent une place en quelque sorte indépendamment des formes de réalisation historique qui seront remises au législateur en tant qu'il est lui aussi un bon candidat au titre de représentant de la raison publique, comme Hobbes l'avait dit de manière beaucoup plus radicale, disons. La raison publique, c'est la raison du souverain. Mais l'idée qu'il puisse y avoir une grammaire fondamentale des concepts juridiques, j'ai fait quelque part une sorte de rapprochement avec Reinhardt. L'idée d'une théorie capable d'expliciter les fondements a priori du droit. Évidemment, Reinhardt était phénoménologue et pas kantien, mais il y a d'une certaine manière une parenté dans l'intention d'inspiration, dans l'idée de définir une sorte de grammaire, j'oserais presque dire de grammaire générative du droit, qui ensuite, bien sûr, devra se réaliser à partir d'un matériau qui sera historiquement divers, contingent, etc. Alors, quant à la question du relativisme, non, bien sûr, mais les arguments me manquent. Non, si. Enfin, il me semble que ce que je viens de dire peut constituer un élément de réponse. S'il est vrai que Kant, dans la doctrine du droit, essaye de constituer une sorte de grammaire a priori des rapports de droit, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un concept de personne. Indépendamment de la question de savoir à qui la personnalité ici et maintenant est reconnue, si on la reconnaît aussi aux domestiques ou aux femmes, etc. Ça, c'est des choses qui sont historiquement variables, mais on a besoin d'un concept de personne, d'un concept de rapport de droit, d'un concept de violation du droit, d'un concept de peine, etc. Et cette grammaire des concepts fondamentaux peut être établie avec une teneur objectivement universelle et pas seulement générale. Mmh. Ensuite, bien sûr, le droit statutaire va réaliser ça de manière toujours imparfaite, diverse, etc. Mais je reconnais que ça ne répond que très partiellement à la question qui demeure.